Chapitre 7. Flavie à Robertine. 22 mai. Ma chère, voilà Lady Rosemonde partie tout d'un coup, avec son fils et ses nièces. Il y a un peu d'aigreur entre nous. Cela devait arriver. En somme, c'est la mère qui a eu tort, et mon père aussi, de se faire des ouvertures, sans réfléchir à l'invraisemblance du succès. Mon père, certainement, rit de me voir mariée. Je comprends ça. Mais Lady Rosemonde ne devait pas être si pressée de marier son enfant, et surtout de me parler de lui. Le jeune homme s'en est douté, et dès lors, il est devenu exigeant avec moi comme un mari. Et puis il a eu du dépit, et il est revenu la tête haute, les pieds en dehors, fier comme un maître de danse, et croyant se moquer de moi. Je me suis amusée à vouloir, pour toute vengeance, le marier avec sa cousine. Il m'a dit qu'il n'avait pas besoin de moi pour cela, sur quoi je fus traitée de baby. Tout cela dans les termes les plus exquis et avec les plus caressants sourires. Mais c'était là le fond des arguments, très transparent pour tout le monde. Si bien que Lady Rosemonde a reçu, à temps, une lettre qui l'a fait partir pour Venise avec toute sa couvée. Selon sa coutume, mon père n'y a vu que du feu. Ce départ inattendu de nos voisins est tombé sur lui comme une cheminée du haut d'un toit, et dans son trouble, il a fait l'énormité de mettre l'étiquette de Sylvia Subalpina au bec fin des roseaux. Emilius a pensé en faire une maladie, non pas de notre drame domestique, mais de la distraction de mon père. Nous voici donc réduits, en tant qu'intimité, à la société du savant. Je ne compte pas pour une société celle du dehors. Je m'étais habituée à regarder Lady Rosemonde comme une personne de ma famille. Il faut donc que je la remplace par cet excellent homme qui est devenu notre hôte. Pourquoi pas? Il y a en lui quelque chose de grave, qui sont l'homme mûr et le père. C'est peut-être à cause de cet état singulier de l'âme, tendu et ravi dans les problèmes qui font qu'à 35 ans, il est aussi étranger à la pensée de l'amour qu'un centenaire. Il y a cela de bon dans la situation avec lui, que je ne peux pas être piquée de son indifférence, vu qu'aucune femme au monde ne pourrait en troubler l'auguste sérénité. Il est encore ici pour 3 jours, après quoi il va à Milan, mais j'espère l'y faire renoncer. Il plaît à mon père et il me désennuie de temps en temps. Il a de l'amitié pour moi, et comme c'est un homme aussi dépourvu de volonté dans ses actions qu'il emporte dans ses idées, je compte qu'il me laissera changer ses projets. Nous avons eu aujourd'hui une sorte d'explication à propos de Malcolm. Il paraît que, sans en avoir conscience, le bonhomme a fait aussi son petit cancan dans cette grande affaire. Il a, je crois, fait savoir à ce bel Écossais que j'étais instruite de ses prétentions. Il paraît aussi que c'est moi qui ai dit cela au bonhomme. Je ne m'en souviens pas. Je l'ai grondé de s'en être souvenu et de l'avoir répété. Sais-tu comment il s'est justifié ? « Mon Dieu, ma chère, a-t-il dit ingénument, vous avez du dépit contre le bon Malcolm et vous ne savez pas à qui vous en prendre. Vous avez le tort de croire que vous rendez tous les hommes plus amoureux de vous qu'ils ne le sont réellement. Vous avez une très haute idée de vous-même. Certainement vous n'avez pas tort. Vous êtes très bien, jeune, riche, aimable. Mais enfin les hommes qui ont mis, tant soit peu, le nez dans le grand et sublime manuscrit de la nature, compare les choses de votre monde à des feuillets si mal imprimés qu'on n'y peut plus lire la signature de Dieu. Croyez-vous donc que ce soit une si grosse affaire que d'être une jolie fille? La plus petite fleur des champs se tient aussi droite et aussi fière auprès de son ruisseau que vous, devant votre miroir. Qu'est-ce que ça fait aux oiseaux des bois que vous ayez une belle dot? Ils n'en seront pas plus pauvres ni plus riches. Les grains n'en pousseront pas plus vite. Et les mouches n'en voleront pas moins. Croyez-vous que quand vous foulez les herbes des prés, les criquets et les sauterelles se soucient de vos petits pieds et de vos bas de soie? Ils sont aussi bien chaussés que vous et leurs jambes sont aussi bien faites. Tu vois bien que je ne peux pas laisser partir un original qui me dit des choses si divertissantes. 25 mai. Il est parti et il ne reviendra pas. Eh bien, nous irons le trouver. Car il n'est plus temps de se le dissimuler, je l'aime. Milan, 5 juin 1850. Trouve-moi folle. Oui, je le suis, ou bien c'est le contraire. C'est peut-être la raison qui me vient, tandis que mon état antérieur n'a été qu'une longue divagation. Je voyais faux. À présent, il me semble que je suis dans le vrai absolu. Peut-être suis-je dans l'impossible quant aux choses de ce monde. Qu'importe. J'ai bien assez pensé à la vérité depuis que j'existe. J'ai bien assez calculé les chances de mon bonheur, de ma liberté, de mon plaisir, de ma vanité ou de mon ambition. Tout cela s'est envolé comme un rêve. Je suis absorbée par une idée fixe, et ce n'est plus à moi que je pense, c'est à quelqu'un qui tient ma vie, mon repos et mon orgueil sous ses pieds. Oh, l'étrange chose! Qui eût cru cela, que j'aimerais ainsi et que je ne serais pas aimée? Car il ne m'aime pas, il me l'a dit. Et au lieu de me devenir odieux, il se fait aimer davantage par sa franchise et sa douceur. C'est qu'il est bon, lui, d'une bonté d'ange. Pas de reproche, pas d'amertume. Il ne m'aime pas, voilà tout. Et il a raison, je le sens bien. S'il eût cédé à une passion qu'il ne peut regarder que comme un caprice, je l'admirerais moins, j'aurais moins d'estime et d'enthousiasme pour son caractère. Nous sommes venus ici, mon père sans savoir pourquoi, comme tu peux bien le penser. Nous avons trouvé Villemer, faisant ses préparatifs de départ pour l'Allemagne, où l'appel je ne sais quelle recherche. Ce qui me charme, c'est que je ne sais et ne comprends pas un mot de ces choses abstraites qui le gouvernent et le passionnent. Les savants qui viennent voir mon père ici, et que j'écoute maintenant parce qu'ils arrivent toujours à parler de lui, ne sont pas d'accord sur l'importance et le sérieux de ses découvertes. Les uns disent que c'est un génie qui transforme toutes les méthodes, les autres que c'est un enthousiaste qui cherche la pierre philosophale. Donc c'est un grand homme, ou un fou. Et cela m'est égal à moi. Tous l'aiment, l'admirent ou le plaignent. Moi je ne me moque pas de ce qu'il cherche. J'en suis effrayée. Il me semble aimer un homme qui s'est adonné à la magie et qui finira par voir les anges ou les démons. C'est peut-être là une des causes les plus irritantes de mon amour. Il me plaît de le disputer à l'inconnu, à une puissance occulte qui, vérité ou fiction, est une rivale que je ne peux ni dédaigner ni haïr. Ce qui dégoûte d'un homme, quand on est fier, c'est de le voir vous préférer une laide ou une sotte. J'aurais peut-être épousé le marquis, si je ne l'eusse vu, hésiter entre moi et une bête. Je n'aurais pas si vite congédié Malcolm, si je n'eusse vu le papillon de ses rêves. J'aurais pu me figurer que c'était le phénix fabuleux, le scarabée d'or ou le cheval de l'Apocalypse. Emilius a failli tomber bien bas, dans mon estime, quand il m'a parlé de rétine et de cornée. Mais il a mêlé à cela je ne sais quel mot qui m'en semblait cabalistique. Il y avait du soleil, des spectres, des diamants, des rayons dans ses paroles, et j'ai cru le voir aux prises avec des légions d'esprits lumineux logés dans les nuances fugitives de l'arc-en-ciel. Non, je ne voudrais pas savoir ce qu'il cherche. Le charme serait détruit. Je ne veux jamais qu'on me le traduise en termes vulgaires. En arrivant ici, nous n'avons pu le voir. Je tourmentais mon père qui le cherchait partout sans le découvrir. Enfin, j'ai eu une inspiration. Oh, dans l'amour aussi, il y a de la magie. J'ai dit à mon père, « Allons voir le lac majeur. » Nous sommes arrivés sur les rives de ce beau lac, et la première personne que nous y avons rencontrée, c'était lui. Nous l'avons suivi dans sa promenade. Il nous faisait ses adieux. Il partait le lendemain. J'ai réussi à me trouver seule avec lui. Je lui ai dit, « Vous ne partez pas encore. Vous êtes seul et pauvre. Les choses les plus sublimes ne peuvent s'accomplir en ce monde qu'à l'aide de moyens matériels qui vous manquent. Vous userez votre vie à résoudre le problème de la misère et de l'isolement. C'est tout un, et vous n'y parviendrez pas. Si vous découvrez votre secret, vous mourrez sans l'avoir révélé. Vous ne pourrez même pas avoir la certitude que ce n'est pas une illusion, car j'ai voulu savoir et je sais qu'il faut de la fortune pour expérimenter. Donc il vous faut 100 000 livres de rente et une famille qui vous pose dans le monde. Revenez à Milan, passez-y 8 jours, et vous serez à même de réaliser le rêve que je vous propose. » Il est resté muet, absolument muet, perdu dans ses réflexions. Il avait compris. Ce silence prolongé m'était bien cruel. J'avais des mouches d'or dans les yeux. J'étais prête à m'évanouir de honte, de terreur et de colère. Il m'a pris la main et l'a baisée en me disant « Voulez-vous me donner une heure pour réfléchir ? Ceci est bien inattendu. » Je l'ai laissé seul. J'ai été rejoindre mon père. Je ne sais de quoi il m'a parlé. Je n'entendais pas, je ne voyais rien, j'étais folle. Je regardais ma montre à chaque instant. Cette heure-là était plus longue que toute ma vie passée. Enfin, elle s'est écoulée. J'ai quitté le bras de mon père en le priant de m'attendre. Je me suis mise à courir comme je n'ai jamais couru. Je suis arrivée à l'endroit où j'avais laissé Emilius, sans savoir par où, ni par-dessus quoi, je passais. Je l'ai trouvé debout et souriant, venant à moi sans se presser. « Écoutez, ma chère enfant, m'a-t-il dit, asseyez-vous sur l'herbe, vous voilà tout essoufflé. Moi, je resterai debout. Je crois que c'est plus convenable. Je vais vous parler. » Tout autre que moi, en pareille circonstance, serait bien persuadé que vous vous moquez de lui et que c'est une charmante mystification. Et comme il me vit fondre en larmes, il ajouta. Mais pourquoi pleurez-vous, puisque je crois que vous êtes sincère et loyale? Vous voyez bien que je vous estime. Il ne m'est pas venu à la pensée, depuis une heure que je réfléchis, que vous pouviez vous jouer de ma simplicité. Eh bien, voici ma réponse. Séchez vos beaux yeux et regardez le soleil. Pouvez-vous me le donner? Non. Eh bien, vous ne pouvez rien pour moi. Maintenant, ce n'est pas là toute la question. Il m'est facile de comprendre que vos 100 000 livres de rente me feraient marcher plus vite et mieux à mon but, lequel est la lumière ou le néant. Je comprends aussi que vous ayez le cœur généreux et qu'une belle action vous tente. Cela est bien dans la nature de la femme de cœur et d'esprit. Vous seriez heureuse par cela seule que vous croiriez avoir fait mon bonheur, et il est probable que je serais très heureux aussi de votre bonté. Car la reconnaissance est un sentiment plein de douceur et de beauté pour qui ne se sont pas indignes du bienfait. Mais il y a, à tout cela, un obstacle invincible. C'est que je suis un homme d'honneur et qu'un homme d'honneur regarde l'égoïsme comme une bassesse. Ce bonheur dont je vous parlais et qui était bien fait pour me tenter, j'ai calculé mathématiquement ce qu'il pouvait durer et le résultat est qu'en élevant le maximum autant que possible, vous auriez 3 mois de gloire intérieure pour votre dévouement, 3 autres mois de générosité, de patience et de résignation, 3 autres mois peut-être de dépit, d'effroi, d'agitation, d'incertitude. Et tout le reste de votre vie, de révolte humaine, de vengeance ou de désespoir. Ne dites pas le contraire, je me connais, j'ai déjà aimé. Je n'ai pas pu oublier la science, et je sais qu'une femme, c'est son droit, doit prendre dans la vie de l'homme qu'elle aime une part plus grande, que je ne peux pas la lui faire. Il est très possible que j'en vinsse à vous sacrifier tout, mon œuvre ou mon rêve. Je suis très doux, et je ne peux pas voir souffrir. Mais à mon tour, je serai malheureux le reste de ma vie, et qui n'a pas de bonheur ne peut pas en donner. Ne parlons donc plus de cela. Oubliez-le. Moi, je ne m'en souviendrai que pour vous aimer comme ma fille, car je suis d'âge à être votre père. Je suis plus vieux que vous ne croyez. Je ne sais pas ce qu'il me dit encore. J'eus un vertige affreux, je perdis connaissance. En revenant à moi, je vis mon père à mes côtés. Emilius avait disparu. Mais il n'est pas parti encore. Nous l'avons retrouvé, 1 heure après, à l'auberge, et nous voilà de retour à Milan, où il a promis de venir nous dire adieu ce soir. Je t'écris en l'attendant, ma chère. J'espère encore, que dis-je? Je crois, je suis sûre qu'il restera. Au moment où il m'aidait à remonter en voiture au bord du lac, j'ai vu dans ses yeux une larme, une seule, mais une larme de cet homme-là. Je suis majeure, tu sais, et mon père n'aurait même pas l'idée d'une résistance légale. Il sera étonné, mais au fond, il m'approuvera, après m'avoir fait toutes les observations qu'il croira devoir me faire. Minuit. Il est parti. Je ne l'ai pas vu. Je ne reverrai jamais. J'ai la fièvre, on vient de me saigner. Adieu, Robertine, pense à moi, à cette coquette, à cette mondaine, à cette folle qui pourtant n'était pas une fille sans cœur. Chapitre 8. Flavie à Robertine. Nantes, 27 septembre 1850. Ma Robertine, je me marie demain. J'épouse sans fanfare et sans canonnade un bon jeune homme que j'aime de tout mon cœur. Je n'ai pas voulu te le dire avant que les choses fussent indissolublement arrêtées. Émile, je ne dis pas Émilius, c'est un autre. Émile, c'est Émile de Vorep, que tu connais un peu, qui a maintenant 28 ans, une belle position dans la magistrature, un esprit sérieux, un caractère charmant, peu de fortune et beaucoup de cœur. C'est mieux que je ne méritais, n'est-ce pas, après une jeunesse si dissipée et avec une tête si légère. Eh bien, je suis de ton avis, jusqu'à un certain point. Mon passé ne vaut rien. Mais depuis 6 mois, j'ai beaucoup réfléchi, et je te fais la promesse que mon avenir vaudra mieux. Non, je ne suis plus la même. Je n'ai pas cru devoir te dire, jour par jour, le changement qui se faisait en moi. Tu n'y aurais pas cru tout de suite, tu m'aurais découragée. Tu es moqueuse, et comme je le suis aussi, ce pauvre moi n'eût pas été pris au sérieux comme il voulait absolument l'être. Le voilà débarrassé de sa gouverne. L'imagination est calme. Le rêve de l'impossible, ce malheureux et superbe rêve qui m'avait gagné, s'est évanoui tout doucement. Tu as su par mon père, qui t'a écrit plusieurs fois, que j'ai été malade peu de jours, mais que ma convalescence a duré plusieurs semaines. J'avais eu un commencement de fièvre cérébrale qui a avorté. 2 mois de langueur et d'affaiblissement physique ont changé forcément mes habitudes, et je peux dire que la nature m'a aidé maternellement à devenir plus calme, plus sédentaire, partant plus studieuse et plus raisonnable. Et puis, puisque je clôt aujourd'hui sans retour une phase de ma vie, je peux bien te dire que cet engouement, ce caprice, cette passion, si tu veux, a été pour quelque chose, pour tout peut-être, dans ma conversion. Je serais injuste si j'oubliais volontairement que la conduite et le langage de cet homme étrange m'ont fait réellement un grand bien. Je l'estimerai toute ma vie, et je crois pouvoir dire que mon mari lui devra son repos et sa sécurité. Vois-tu, j'avais vécu trop factice, antinaturel, dans le convenu du monde, dans le scepticisme de l'esprit et dans le vide du cœur. J'en étais lasse, je commençais à avoir honte de moi-même, et il fallait que tout cela vînt aboutir à une explosion, à une grande folie, à une idée de dévouement. Eh bien, cette folie a eu pour objet, grâce à mon étoile, je le reconnais, un homme excellent, magnanime, sage comme Nestor, en dépit d'un cerveau fantastique. Une bonne et belle âme, enfin, et cet homme a été le médecin de mon esprit malade. S'il m'eût raillé, s'il m'eût dit tout ce qu'un homme plus expérimenté et me connaissant mieux eût pu et dû me dire à ce moment-là, j'étais perdue. Je me serais à coup sûr jetée dans les rêves et dans les romans. Il le fallait bien, puisque j'avais tant dédaigné et tant raillé moi-même l'idéal et les grands sentiments. Mais sa confiance et sa naïveté m'ont sauvée. Il n'a fait ni l'étonné, ni le modeste, ni le sceptique. Il ne s'est pas aperçu que j'étais profondément ridicule. Avec lui, j'ai commencé à me prendre au sérieux. Je ne sais pas si j'ai aimé, mais j'ai cru aimer. J'ai souffert, j'ai tremblé, j'ai pleuré. Tout cela m'a été bon. J'avais appris d'ailleurs déjà en l'écoutant que le mérite d'un homme n'est ni dans ses habits, ni dans ses chevaux, ni dans sa manière d'entrer dans un salon, ni dans aucun de ces riens dont, sans en convenir, j'étais éblouie. J'ai cessé d'être bête en écoutant un homme à idées. J'ai fait la découverte d'une variété nouvelle dans la tribu des épousables. L'homme sérieux m'est apparu non plus comme un pédagogue malpropre et caricature, mais comme un être mieux doué et plus honorable pour une femme que l'homme frivole et pimpant. Aussi ai-je cessé de faire des théories sur le mariage, au point de vue du rôle à jouer dans le monde. J'ai donné ma démission de femme à la mode. Je pense sérieusement aujourd'hui aux choses de la famille, et je crois que j'y serai facilement et doucement initiée par celle de mon mari. Il a une sœur charmante, vertueuse et point prude, un père très instruit et très bon, une mère pieuse mais tolérante. Quant à lui, je crois être dans les meilleures conditions de bonheur. J'ai pour lui une amitié réelle et en lui une confiance absolue. Nous passerons l'hiver à Paris et je te le présenterai. Maintenant, si tu veux avoir des nouvelles de mes anciens amis, je te dirai que Malcolm est en Angleterre, en voie d'épouser la Mésange numéro 1, que Lady Rosemonde m'a écrit, à l'occasion de mon mariage, une lettre charmante, tout à fait bonne et franche. La petite Anne y a glissé quelques mots, naïfs et tendres. Celle-là n'a jamais cessé, dit-on, de m'adorer. J'ai absolument perdu de vue les beaux et les belles de Rome et de Florence, les marquises, les abbés et tutti quanti. Quant à celui dont je t'ai tant et trop parlé, j'ignore absolument où il est. J'ai su par mon père qu'il avait pris la route de Berlin, mais il ne nous a pas donné signe de vie, et je pense bien que ce sera toujours ainsi. Je ne désire pas qu'il en soit autrement. J'aime mieux qu'il reste dans son nuage comme un esprit mystérieux dont je ne souhaite plus l'apparition, mais dont le souvenir me reste doux et dont la bénédiction me portera bonheur.